L'expérience de l'art brut. L'art coutumier, qui s'étale pompeusement dans les salons et les galeries, et qui réussit à passer, aux yeux du plus grand nombre, pour mériter seul le nom d'art, à l'exclusion de tout autre, nous apparaît de contenu fort pauvre, réduit à de sempiternelles redites et imitations, où la part de création personnelle est à peu près nulle. Nous le tenons pour un succès d'année parasitaire qui singe la création artistique sans en procéder, substituant à celle-ci des mots d'ordres arbitraires et d'oiseux systèmes théoriques. Nous croyons que le jour est proche, sinon venu, où le public s'avisera de l'ample méprise sur quoi repose le collège tapageur des artistes professionnels, de leurs pseudo-critiques d'art et de leurs marchands, où apparaîtront la vacuité des ouvrages de ces clercs, l'inconvenance de l'activité commerciale à quoi ils donnent lieu, l'aberration des commentaires dont ils s'entourent et le peu de part que la véritable fonction artistique a dans tout cela. L'art véritable est, à notre sens, ailleurs. Cette déclaration, datée d'octobre 1948, est signée Jean Dubuffet. Elle aurait pu aussi bien être rédigée par Michel Tapier, voire, en y mettant des nuances, par Jean Paulhan ou même par André Breton. Rien d'étonnant, puisque ce texte est extrait du manifeste de la Compagnie de l'Art Brut, dont tous les surnommés étaient fondateurs. Je me souviens du choc que provoquèrent en moi les expositions du foyer de l'art brut. D'abord dans le sous-sol de la galerie Drouin, place Vendôme, à partir de novembre 1947, puis dans le pavillon, au fond du jardin des éditions Gallimard, de septembre 1948 au printemps 1952. Il y avait là, en effet, quelque chose de nouveau, beaucoup plus excitant que l'art de la plupart des artistes. Les naïfs que l'on nous présentait n'avaient également que peu de rapport avec les consciencieux artisans qui, depuis le succès du douanier Rousseau, peignent dans sa manière. Moins soumis à l'objet, d'une imagination délirante qui rejoignait par l'esprit certaines œuvres expressionnistes ou surréalistes, il se dégageait de ce palais des merveilles un pouvoir onirique dont l'équivalent ne se trouve guère qu'au musée de l'Homme ou dans les caves du musée des arts et traditions populaires. Des cauchemars mystiques du coiffeur Miguel Hernandez aux végétalisations de Pierre Giraud, des mystérieuses sculptures provinciales, les barbus Muller, aux pierres taillées de Crisec, des cauchemars du bourrelier Robert Véreux au paysage parisien du brocanteur Marcel Lamy, du bestiaire chatoyant de Slavko Kopak aux outils taillés de Xavier Parquet, dit le Zoulou, fabricant de hottes, des silex de M. Juva au liège taillé de l'ouvrier liégeur Gironella, toutes ces œuvres nous redonnaient le sens de la valeur en soi des matériaux, leur présence sensuelle rendue fantastique par un coup d'outil bien placé. Ce que Klee avait compris, ce que Dubuffet et Atlan avaient compris, ces amateurs le rappelaient aux artistes figés dans leurs règles d'or. La magie, le rêve, la fantaisie, l'humour, la cocasserie, le délire offraient un champ d'investigation, une possibilité de renouvellement d'inspiration infinie. L'aventure de l'art abstrait, 1956.